Chapitre 21e. Plan sombre. Eugénius, qui se trouvait en ce moment auprès de sa tante Graphia, était un beau jeune homme qui aurait pu faire son chemin à la cour ou à l'armée s'il avait été dirigé dans cette voie. La tendresse irréfléchie de Graphia, qui voulut en faire un évêque, causa son malheur. Il fut fait prêtre sans vocation. Ni lui ni elle n'avaient une idée claire de la vocation ecclésiastique. Aussi regardaient-ils tous deux la conduite peu religieuse que Eugénius tenait comme une conséquence du droit que possède la jeunesse de vivre sans règles et sans freins, et ils traitaient de folie et d'injustice toute opinion qui, à cet égard, n'était pas conforme à la leur. Cependant, Eugénius n'était pas une mauvaise nature. Jamais il n'aurait, de son propre mouvement, déclaré la guerre au patriarche s'il n'avait servi d'instrument dans une main étrangère. Marsa avait voulu reconnaître en Florus le fils d'une de ses esclaves, du talent et une tête éveillée. Elle était l'amie intime de Graphia, ce qui n'excluait pas un certain sentiment de jalousie et de rivalité. Marsa était ennuyée que Graphia parlât toujours de l'immense talent de son neveu Eugénius, qui sans doute serait une des colonnes de l'église. Et un jour, elle déclara à Graphia, qui en fut fort étonnée, qu'elle fondait les mêmes espérances sur le jeune Florus en qui elle avait observé des aptitudes extraordinaires et qu'elle faisait élever avec le plus grand soin. En réalité, Florus n'avait que des talents très médiocres, mais il était beaucoup plus ambitieux que Eugénius, et pour cette même raison, il s'appliquait davantage à l'étude, sans avoir cependant plus d'amour pour sa vocation. Eugénius voulait jouir de la vie et du monde. C'était aussi le désir de Florus, mais celui-ci voulait en même temps compter pour quelque chose dans le monde et dans la vie. Il s'attacha étroitement à Eugénius, l'enveloppa comme d'un réseau de caresses et de flatteries et lui devint indispensable. Florus voyait bien que Eugénius, même en dehors de la carrière ecclésiastique, arriverait par sa position de famille et la perspective d'une fortune princière à occuper une situation brillante dans la société. Et tout en lui enviant ses avantages dans le fond de son cœur, il espérait par cette amitié et les relations qu'elle lui amènerait être mis assez en évidence pour pouvoir dans la suite jouer un rôle important. Aussi feignit-il une vive amitié pour Eugénius. Il gagna par ce moyen les bonnes grâces de Graphia, tandis qu'il perdit celles de Marsa après que le patriarche Jean Chrysostome eut déclaré que la conduite de ces deux jeunes prêtres lui faisait un devoir de le retrancher de la communauté de l'Église jusqu'à ce qu'il se convertisse sérieusement. Eugénius reçut cette déclaration avec dédain et indifférence, mais Florus résolut de se venger du patriarche. Il devint le confident de Graphia, et sa liaison avec Eugénius permit qu'il alla et vint dans la maison sans éveiller les remarques. Graphia trouva donc les deux jeunes hommes dans son salon. Elle se retira avec eux dans un cabinet qui ne s'ouvrait que pour les amis les plus intimes. Ils s'assirent et Graphia prit la parole. « Eh bien, où en sommes-nous ? » dit-elle en se tournant du côté de Florus. Florus fit un léger mouvement de déférence du côté d'Eugénius, pour lui laisser l'honneur de répondre, sans cependant que son regard perdît une certaine expression de jalousie. « Nous en sommes au point que la grande pièce peut commencer. Les évêques d'Ionie, que le patriarche a interdit comme simoniaques, et qui ont adressé leur plainte à l'empereur, demandent en ce moment avec instance un concile de toute l'Église de l'Empire d'Orient. Ils le demandent, je le sais, dit Graphia avec impatience. Mais on n'est pas sûr de la décision qui sortira d'un pareil concile, et pour cette raison, on n'est pas bien pressé de le convoquer. Mais on a trouvé maintenant, reprit Eugénius, un nouvel accusateur du patriarche, et celui-là sera sans doute d'un grand poids dans la balance. Et il se nomme, demanda-t-elle d'un ton incrédule. Théophile, le patriarche d'Alexandrie, fit Eugénius d'un air triomphant. Est-ce bien sûr ? Demanda-t-elle avec anxiété. Très sûr, madame, répondit Florus à son tour. Vous rappelez-vous les 4 moines égyptiens qui, l'année dernière, ont fait sensation ici par leur taille extraordinaire ? Parfaitement. L'impératrice était bonne pour eux et les tenait pour très pieux. On les appelait les longs frères. Ils se plaignirent contre Théophile, qui les avait chassés de leur solitude parce qu'il leur reprochait je ne sais quelles opinions hérétiques. C'est bien cela, reprit Florus. Le patriarche Chrysostome reconnut les longs frères pour très orthodoxes et écrivit au patriarche Théophile pour le prier d'accorder aux vieux moines la liberté de retourner vivre dans leur désert. Mais celui-ci se prétendit aussi apte que Chrysostome à juger les moines de son diocèse. et maintint sa décision pleine et entière. Désespérés, les vieux fanatiques se tournèrent vers l'impératrice. Ils prièrent, ils pleurèrent, ils supplièrent, ils alléguèrent qu'ils ne pouvaient vivre et prier que dans le désert. Ils l'assurèrent qu'ils n'avaient pas d'autre foi que la foi catholique dans toute sa pureté. Enfin, ils lui échauffèrent tellement la tête qu'elle écrivit à Théophile que, puisqu'il accusait ses moines d'hérésie, il n'était pas bien certain que lui-même fût très orthodoxe, qu'il eût à se départir de cet esprit de persécution qui mettait toute l'Égypte en révolution, ou qu'il s'attendît à être appelé à Constantinople pour y rendre compte de sa conduite. « C'est incroyable !» s'écria Eugraphia. « L'influence que Chrysostome exerce sur l'impératrice. C'est lui et aucun autre qui lui a soufflé cette lettre. Ce qu'il regarde comme orthodoxe est orthodoxe pour elle. » Un grand nombre de plaintes contre les violences, les extorsions et les persécutions du patriarche Théophile avaient été envoyées à l'impératrice de tous les points de l'Égypte. Reprit Florus avec un éclair de joie maligne dans les yeux. « Nous vivons dans un temps singulier, noble dame. Nous avons de saints évêques, mais ils sont divisés, acharnés les uns contre les autres, et beaucoup de prêtres et de laïcs élèvent des plaintes amères contre les prélats. L'impératrice doit bien savoir que le patriarche d'Alexandrie est du nombre de ces évêques d'une sainteté particulière. Quoi qu'il en soit, elle lui a écrit d'un style ferme et même sévère, mais lui n'a pas répondu et n'a rien changé à sa conduite. Il ne nous convient pas de blâmer la conduite du vénérable patriarche d'Alexandrie, dit Eugraphia froidement. Nous ne connaissons pas ses raisons. Mais tout le monde sait avec quelle ardeur il déteste le paganisme et poursuit la destruction du culte des faux dieux. Dans ces circonstances, il peut se présenter quelques écarts, quelques excès de zèle qu'on ne doit pas lui imputer. Florus approuva d'un geste de tête et continua. Quand les évêques d'Ionie rédigèrent leur plainte contre le patriarche de Constantinople, des circonstances particulières m'amenèrent à Alexandrie. Je pris la liberté de présenter au vénérable Théophile le triste tableau de la situation à Constantinople. Je lui peignis le mécontentement des évêques, du clergé, de la cour contre Chrysostome. J'ajoutai que ce serait un grand bienfait qu'un concile examinât et condamnât son ambition, son entêtement, sa dureté, ses innovations en matière de discipline. Mais qu'il nous manquait ici un homme de poids qui pût l'attaquer sans crainte et avec toute considération. Le vénérable Théophile répondit « Aussi longtemps que l'impératrice sera aveuglément dévouée au patriarche Chrysostome et disposée à le défendre et à le préférer en toute occasion, il ne se trouvera personne qui veuille se charger contre lui du rôle ingrat d'accusateur, car on est certain à l'avance de s'attirer l'inimitié de l'impératrice. Alors, madame, confiant dans les sentiments de votre grand cœur, j'ai répondu « Des personnes impartiales et haut placées dans l'entourage de l'impératrice s'efforcent incessamment de l'édifier sur le compte du patriarche de Constantinople et de lui donner la mesure de sa véritable valeur. Et lui-même prend dans ses sermons, comme dans ses entretiens particuliers, des airs si arrogants à l'égard de l'impératrice. Il lui fait des reproches si fréquents et si vifs qu'il est impossible qu'elle puisse se soumettre encore longtemps à une tutelle aussi humiliante. Car celle qui gouverne l'Empire d'Orient, qui ne veut, dans tout ce qu'elle fait, d'autres conseils et d'autres obstacles que ceux qui lui plaît de se donner à elle-même, n'est point du tout de l'étoffe dont le patriarche fait ses esclaves spirituels. » À cela, le vénérable Théophile répondit « Fort bien, mon fils. Aussitôt que cette heure aura sonné, je suis prêt à venir. L'impératrice m'a sommé de prouver l'orthodoxie de ma foi à Constantinople. J'irai, et c'est l'orthodoxie d'un autre que j'interrogerai. Voilà, madame, le résultat de mon voyage à Alexandrie. » Résultat excellent, fit Eugenius. Maintenant, enfin, l'affaire prend tournure. Il va sans dire, noble dame, continua Florus avec un grand respect, qu'il vous reste à gagner le point principal. Il faut que l'impératrice convoque le concile demandé par les évêques interdits. Naturellement, cela est tout à fait nécessaire. Je me fais un plaisir de le reconnaître, répondit Eugraphia, non moins malicieuse que Florus. Le pieux patriarche Chrysostome a pu, dans son saint zèle, dépasser quelquefois la mesure. Il interdit les évêques et suffragants, il protège les moines hérétiques de l'Égypte, il maltraite son clergé, toute chose que la majesté impériale, dont la justice est l'attribut suprême, ne peut pas tolérer. Avec sa vivacité d'esprit extraordinaire, Le caractère de l'impératrice se ressent d'une certaine mobilité. On n'est jamais sûr qu'elle achèvera ce qu'elle a commencé. Mais il faut tenter la chose. Le fanatisme étouffe le christianisme. Il le fait haïr. Il faut combattre les fanatiques à quelques degrés de l'échelle sociale qu'ils se trouvent placés. Et plus ils sont élevés, plus il faut les attaquer résolument. Une couple de pauvres moines égyptiens, quand ils seraient 1000 fois plus saints encore aux yeux du peuple, ne sont pas à beaucoup près aussi dangereux qu'un patriarche qui les protège. « Et il se mêle de tout, ce pieux Chrysostome !» fit Eugénius. « Combien n'a-t-on pas crié, parce que Trope avait mis la noble Olympia en tutelle ?»« Avec raison !» fit Eugraphia d'un air irrité. Le misérable esclave écrasait du poids de son arrogance insolente une femme de notre condition. « Très bien. Je suis loin de l'excuser, » dit Eugénius avec calme. « Mais s'en trouve-t-elle mieux maintenant, cette femme de notre condition ?» Le patriarche lui prescrit de quelle manière et à qui elle doit faire l'aumône. Elle était, il est vrai, d'une générosité prodigue, mais cela a cessé. Elle prend des informations sur les gens qui lui demandent des secours et sur l'emploi qu'ils en font. Et s'il n'en est pas satisfaite, elle ne donne plus rien. C'est le premier indice de raison que je remarque dans la conduite de la noble Olympia, dit Eugraphia avec un froid sourire. Si c'est effectivement à l'influence du patriarche qu'il faut l'attribuer, elle a sujet de lui en être reconnaissante. On le croit généralement, dit Florus, car on disait autrefois qu'il était impossible à la noble Olympia de rejeter une prière, surtout quand on lui demandait au nom de Jésus ou par les plaies du Sauveur. Mais ce temps est passé. Je connais quelqu'un qui s'est servi de ses façons de parler en lui demandant un secours. Elle a répondu, « Ne profanez pas le saint nom de Dieu en l'employant pour des œuvres impies, et elle ne lui a rien donné. » En avait-elle la preuve ? Demanda Eugraphia malicieusement. « Je crois que oui. Mais on voit par là combien elle doit avoir d'espions. Et c'est encore le patriarche qui les lui procure. Car il a la passion de se mêler de tout et de chacun. Beaucoup de gens pour lesquels Olympia était une source inépuisable de bienfaits sont maintenant les ennemis jurés du patriarche, qui fait couler ses flots d'or dans d'autres canaux. « Il a donc aussi des ennemis dans le peuple ?» demanda Eugraphia. « Oh, beaucoup. Parmi la classe tarie du peuple, » répondit Eugénius inconsidérément. Florus pinça les lèvres pour cacher le déplaisir que lui causait l'expression irréfléchie échappée à Eugénius. « Vous savez, madame, » continua-t-il, « avec quelle ardeur le pieux patriarche s'élève contre les spectacles, aussi bien ceux du théâtre que ceux du cirque. Il y voit une cause de relâchement des mœurs, d'abaissement de l'esprit, de corruption du goût, d'indifférence pour les intérêts réels et élevés. Il y voit une excitation à la paresse, à la frivolité, au libertinage, et je ne sais quoi encore. Sans cesse, il prêche la contre et se rend insupportable au peuple qui tient passionnément au jeu et au spectacle, et qui aime mieux souvent courir au cirque qu'à l'église. Au lieu d'être indulgent pour cette faiblesse innocente et enfantine, il en fait un crime digne de tous les tourments de l'enfer. Sans doute vous assistez assidûment au sermon à Sainte-Sophie ? Demanda ironiquement Eugraphia. « Je vous demande pardon, madame, » répondit Florus froidement. « Quand on a entendu un sermon de Bouche d'Or, on les connaît tous, d'autant plus qu'il en peut faire 20 et 30 toujours sur le même thème. » Quelle facilité d'élocution et quelle abondance de pensée doit posséder le patriarche pour faire 20 sermons sur les dangers des jeux du cirque ? » dit Eugénius. « Je n'en pourrais pas débiter un seul jusqu'au bout, au moins. » « Tout naturellement parce que vous n'êtes pas convaincu de l'influence pernicieuse qu'il attribue à ses spectacles, » répondit Florus. « Oh, comme cela est vrai !» fit Eugénius, satisfait. « L'abondance des pensées ne peut découler que de la profondeur de la conviction, » dit Eugraphia. « J'espère que Eugénius nous étonnera plus tard par des sermons solides par le fond, sinon aussi redondants dans la forme. » Pendant qu'il se demandait s'il était bien capable d'un pareil exploit, sans se sentir la moindre envie de tenter l'aventure, Eugraphia continuait sa conversation avec Florus et passait en revue les noms des évêques connus comme partisans ou ennemis du patriarche. Le résultat de cette statistique prouva que Théophile avait besoin d'amener à Constantinople un bon nombre d'évêques du patriarchat d'Alexandrie pour que le camp des adversaires de Chrysostome fût aussi nombreux que celui de ses amis.